Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur RLP, Radio Libre en Périgord 102.3 FM pour ce nouveau direct depuis nos studios à Chamiers dans le Périgord. Famille, justice, enfance, votre émission sur l'étude sociologique de la famille occidentale contemporaine. Vous connaissez maintenant le concept, nous approchons l'édition numéro 250. Et ce soir, nous allons parler droit des pères, parce qu'on a quand même beaucoup parlé durant cette saison de violences faites aux femmes, d'inceste et autres, mais il faut revenir aussi sur cette notion. Et nous avons avec nous Maître Magali Mini en direct. D'ailleurs, pour les habitués, vous avez aussi le lien sur ma page YouTube si vous voulez voir l'image. Maître Mini, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vais vous présenter un petit peu. Vous êtes avocate. Vous êtes avocate.
Exactement.
À Reims, c'est ça, si je ne m'abuse.
Exactement. Voilà. J'appartiens au barreau de Reims.
Mais surtout. Avant de voilà, je vais dire que vous êtes une maman avec une grande fille de 23 ans. Vous avez familialement, donc vous avez connu la séparation. Vous savez ce que c'est que vivre un divorce et qu'une séparation. Familialement, vous savez aussi ce que c'est qu'avoir un père et ne plus en avoir. Et donc, moi, je suis venu vous voir parce que j'ai vu des articles écrits sur Internet qui défendaient la position du père dans la famille. J'étais très touché par ces articles et c'est pour ça que je voulais vous interroger. Maître Magali Mini, pourquoi avocat ? C'est venu d'où, quand, comment ?
Alors, ça remonte à très loin, je ne suis plus toute jeune, mais mon premier stage en troisième, qui existe toujours, hein, on doit toujours faire un stage en troisième actuellement, et moi, mon premier stage, j'avais 13 ans, j'avais la chance d'avoir un an d'avance, et mon père avait un ami qui était avocat, je ne savais pas où aller, et il me dit, mais tu as qu'à aller là-bas. Je suis allée là-bas, j'ai eu un coup de cœur pour le métier.
D'accord.
Un coup de cœur, voilà. Une semaine, au bout d'une semaine, je savais que c'était ce que je voulais faire.
Ok, donc c'était très tôt, il y avait la vocation.
Très très tôt, et puis aussi par rapport au caractère. J'ai quand même été plusieurs fois délégué de classe, etc. Enfin voilà, c'est entre le caractère et le stage, j'ai eu la confirmation.
D'accord, il y a une combattante là. Bon, ok, donc études de droit, l'université.
Oui.
Oui.
Alors, j'ai fait toutes mes études sur Amiens. Là-bas, je suis picarde.
D'accord.
Donc, j'ai fait toutes mes études sur Amiens. J'ai fait donc mon bac plus 5 sur Amiens, parce qu'il faut faire, à l'époque, on appelait ça la maîtrise, un an d'IEJ d'Institut d'études judiciaires. Et puis après, le concours d'entrée à l'école d'avocat. Et puis après, un an d'école d'avocat, qui existe encore à Amiens il y a 24 ans. Et puis après, c'était les deux ans de stage à la sortie de l'école.
D'accord. C'est 8 ans, hein, si je me souviens bien, avocat.
Oui.
D'accord.
C'est ça.
Vous aviez fait dès le départ.
C'est long, mais ça passe très vite.
Ah, c'est assez intense. Hein. On critique parfois les magistrats, les avocats. Mais par contre, quand on regarde les études qu'il faut qu'ils se tapent, généralement, c'est assez. Il y a du contenu quand même. Hein. Il faut une bonne mémoire.
Sont les premières années les plus dures.
Oui.
Mais ça les premières années. Comment ?
Ça filtre d'ailleurs, hein, je crois, qu'entre la première année de droit et la fin.
Exactement. La première année, on est très nombreux. Et déjà, pour passer en deuxième année, le filtrage, il s'opère. Mais en même temps, ça fait appel à beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire. Mais alors, vraiment, on ingurgite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis après, c'est un raisonnement. Il faut apprendre et prendre le raisonnement juridique. Et ça, c'est franchement pas évident. C'est seulement au bout de 2-3 ans qu'on commence à l'acquérir. Donc en fait, il faut travailler beaucoup, apprendre beaucoup et faire travailler le plus possible son cerveau par rapport au raisonnement. Et puis, on était à peu près 800 en première année. En deuxième année, déjà, on était à la moitié. Et on a fini, on était 25 à l'école d'avocat. Ça vous donne une idée ?
Bien sûr. Oui, comme quoi la fac de droit, c'est pas que pour les glandeurs à cheveux bleus. C'est comme un psycho, en fait, quand on travaille vraiment, après
ah
il y a quelque chose.
Oui. De toute façon, sans travail, ça marche pas. Hein.
Vous avez fait une spécialisation ? Vous étiez direct dans la famille ou vous êtes devenu
J'ai pas de spécialisation à proprement parler. C'est-à-dire que la spécialisation chez nous, c'est un diplôme à part. Je ne l'ai pas.
D'accord.
Et en fait, ma spécialité, j'irais plus ce mot-là, excusez-moi de jouer sur les mots, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais c'est effectivement le droit de la famille et le droit du travail, mais principalement le droit de la famille. Et cette spécialité, enfin, c'est-à-dire ce domaine d'activité, c'est au fur et à mesure de mon expérience que je l'ai développé.
Ok. Vous êtes mise en libéral rapidement ou vous êtes passée par un cabinet
J'ai été associée pendant quelques années et puis depuis 13 ans bientôt, je me suis mise en indépendante, indépendante seule.
D'accord. Donc, on a fait un petit peu la présentation. Vous avez une vision sur plusieurs centaines, plusieurs milliers de divorces, séparations, histoires de vie. On peut dire ça.
Oui. Voilà. On peut dire ça, oui.
Non, mais c'est intéressant, vous voyez, c'est le...
Oui, oui, voilà. On peut dire ça.
On parle depuis une certaine origine quand même. OK. Dans ce que vous écriviez, vous disiez que durant les divorces au tribunal familial, alors, c'est une voix qui est rare, hein, surtout de la part d'une femme qui a divorcé, vous disiez que vous aviez l'impression que les pères étaient discriminés. C'est le mot que vous avez employé, je crois.
Alors oui, mais je peux pas vous dire le contraire. Je pars du postulat et c'est souvent ce que je dis, c'est dans le code civil, on ne distingue pas le père ou la mère. On parle de parents. Et je pense que l'application qui doit être faite par les juridictions, alors attention, je ne veux pas mettre tous les magistrats dans le même sac, sinon je vais me faire des ennemis, mais l'application, elle doit tenir compte de ça. C'est-à-dire que si on ne distingue pas père et mère, ça veut bien dire que les deux ont les mêmes droits, les deux ont les mêmes obligations, mais ils ont aussi la même importance dans la vie des enfants. Et c'est dans l'application concrète que j'ai l'impression, et j'ai pu le constater, je ne peux pas le nier, que quand la mère parle, on a tout de suite une précaution par rapport à ce qu'elle dit à l'égard du père, en disant, bon, si la mère le dit, on va être précautionneux et on va faire attention, alors que quand c'est le père, il doit montrer tout, il doit tout justifier, mais même des situations, des fois, complètement dingues. Il doit tout prouver. Pour préparer un dossier JAF, pour la mère, vous n'avez pas besoin de justifier de beaucoup de choses. Même si vous déposez, enfin, vous justifiez d'une main courante, ça va alerter le magistrat. Vous faites la même chose pour le père, le magistrat va dire, attendez, c'est pas suffisant, il faut étayer le dossier, il n'y a pas d'éléments, vous ne l'avez pas assez établi. Alors, je grossis le trait pour la compréhension ici et dans notre discussion.
Non, vous grossissez pas.
Mais dans l'idée,
pas le
c'est vraiment ça.
Je suis désolé, mais vous grossissez
c'est vraiment,
pas du tout.
Ouais, non, mais, encore aujourd'hui, je recevais un client et je lui ai dit, on vous a accusé en 2022 de consommer de l'alcool. Eh bien, c'est pas grave, on va justifier, on a un an et demi de procédure devant nous, on va justifier tous les mois, vous allez faire une prise de sang.
Ben voilà.
Je serai pour la mère, jamais je ferai ça. Et il y a des mères aussi qui ont des addictions à l'alcool, vous voyez. Et c'est en ça que je trouve que c'est injuste et qu'en effet, je trouve qu'ils sont pas sur un même pied d'égalité. Et on obtient des bonnes décisions quand on, parce qu'on justifie, quand on bétonne, vous m'excuserez l'expression, quand on bétonne. Mais
oui, je
c'est
vous entends,
chaque
je vous entends.
Mot qui est dit. Voilà, c'est pas normal. Ça pose une difficulté. Pour moi, on s'éloigne de l'application du Code civil quand on fait ça.
L'article 1 de la Constitution dit qu'il y a une égalité devant la loi et que hommes et femmes, en fait, devaient être traités de la même manière.
Ben, raison de plus pour justement reprendre la Constitution, elle a encore une valeur plus importante que le Code civil.
Mais c'est pour
donc,
ça,
raison
voilà.
de plus pour pouvoir justement l'appliquer. Mais ce que je vous explique, c'est la vérité, c'est la réalité judiciaire, on va dire, des décisions. Concrètement, les décisions, elles détournent aussi par le fait des jeunes âges de l'enfant. Donc on va forcément plus donner raison à la mère. Cette histoire d'allaitement. La mère allaite, donc forcément on peut écarter un petit peu le père ou lui réduire ses droits. Vous voyez,
on peut entendre. J'ai interrogé des professionnels, l'allaitement, les besoins fondamentaux. En fait, il faut aller jusqu'à l'objet transitionnel et le quatre pattes, et à partir de cet instant, il peut y avoir une équité, une égalité. Mais auparavant, il y a encore une fusion. Il n'y a pas d'autonomie.
Non, mais bien sûr que je peux le comprendre. Moi aussi, je peux le comprendre. Bien sûr. En plus, c'est beau et plus on peut le faire, mieux c'est. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que on est dans une société qui a vite compris qu'on pouvait détourner les règles. Donc sur quelque chose de beau comme l'allaitement, on va détourner, en fait, ça sera le prétexte. On décide de prolonger un allaitement, par exemple, je pense à un dossier à un âge avancé, pour dire, mais vous voyez, je peux pas me couper de mon enfant. Mais en réalité, quand il y a une enquête sociale, elle lâche quand même qu'elle veut pas qu'il y ait le père dans la vie. Ben, donc voilà, donc c'était le prétexte. Moi, c'est sur ça que je me bats. Dire, voilà, quand les arguments de la mère, alors déjà qu'ils sont pris très au sérieux, même s'il n'y a pas d'éléments de preuve, mais si en plus c'est des prétextes, parce que c'est imparable, vous parlez d'allaitement, évidemment c'est imparable, mais si tout ça, après moi j'arrive à prouver que c'est juste un prétexte, là ça me pose problème.
Bien sûr.
Et ça pose problème à mon client et ça pose problème à l'enfant,
finalement. Oui, parce qu'à 8-9 ans, elle n'est plus en train d'allaiter. Là. Clairement, en 15-20 ans, là, est-ce qu'il y a plus de mères qui essaye d'exclure le père, c'est une impression que nous on a. C'est plus aujourd'hui qu'avant.
Alors là, je vous dis un grand oui.
D'accord.
Un oui majuscule.
D'accord. Donc depuis le terrain.
Très clairement.
D'accord. Ok.
Il y a deux choses qui expliquent ça. La première, c'est que les relations, une fois la séparation, sont de plus en plus conflictuelles. Et de ce fait, il y a un rapport de force qui est tenace, qui est assez virulent parfois. Et dans ce rapport de force, justement, la mère va faire parfois en sorte d'évincer le père. Et la deuxième raison, c'est que cet équilibre et cette égalité entre les parents, aujourd'hui les pères en ont conscience aussi. Donc ce qu'ils acceptaient il y a encore quelques années en disant bon ben les enfants vont rester chez la mère et moi je les prendrai qu'un week-end sur deux, aujourd'hui les papas investis, et ils ont raison, les papas investis, ils veulent justement autant.
Sociologiquement, les pères veulent de plus en plus s'investir dans la petite enfance et l'éducation de leurs enfants. Il me semble, oui. Hein, on l'a constaté ici de multiples
fois. C'est complètement ça.
D'accord.
C'est complètement ça. Et par contre, dans la démarche, alors bien sûr qu'il y a des exceptions à tout. Hein,
bien sûr.
Non, mais dire que les pères sont tous parfaits et les mères,
voilà, ça n'existe pas. C'est l'être humain, c'est la loi des chiffres. Je suis d'accord. Oui. Mais je veux dire, il y a un mouvement de fond, tout de même, qui montre que les pères d'aujourd'hui, contrairement à nos grands parents, où il y a 40-50 ans, veulent plus aller s'occuper de leurs enfants. Voilà. Chez nous, en tout cas, ici.
Bien sûr, mais plus dans les années 60 ou 70, où le père s'occupait simplement de savoir si la marmite elle allait être remplie, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, les pères adaptent leur activité professionnelle au niveau des horaires. Avec le télétravail, c'était formidable aussi, ça. Pour la vie familiale, ça, c'est quand même vachement bien. Donc, ils peuvent aménager. Ils s'investissent en tant que parents d'élèves dans les établissements scolaires. Ils s'investissent aussi dans les activités extrascolaires. Ils font tout ça. Donc, évidemment qu'ils ont envie de se taire, entre guillemets, et d'accepter un week-end sur deux. Vous savez, il y a quand même une chose, et ça j'insiste aussi à chaque fois dans les dossiers compliqués, c'est que, je vais prendre l'exemple de la brosse à dents, et vous allez voir que ça va vous parler. Quand vous avez vos enfants un week-end, et que vous ne les avez pas la semaine, vous ne gérez pas le quotidien, donc vous n'allez pas vouloir vous disputer avec votre enfant s'il grogne un petit peu pour aller se brosser les dents le soir. En revanche, quand vous l'avez toute la semaine, les règles du quotidien qui sont en place et qui doivent être respectées, pour éduquer des enfants, il faut déracer la base. Et dans ces règles-là, le brossage de dents, grimacer une fois, deux fois, troisième fois, il le fera. Et c'est en ça que le père, en plus, non seulement ça lui permet de bien éduquer son enfant, mais en plus, ça lui permet de jouer son rôle de père avec toute l'autorité qui en découle. Et ça, c'est important. Alors que quand on réduit un week-end sur deux, vous attendez 15 jours pour voir votre enfant. Quand vous venez, c'est la quête aux activités parce qu'on ne sait plus quoi faire. On peut pas aller à Disney tous les week-ends non plus, d'accord. Donc en fait, le père souvent pour faire plaisir à ses enfants, il est dans la surconsommation d'activités et on passe à côté de l'essentiel.
Ah, c'est papa popcorn, papa gâteau, et il n'y a plus de transmission de valeurs.
C'est okay. Ça.
Donc facteur 1 que vous avez aussi constaté, c'est que sociologiquement, il y a plus de pères qui veulent s'investir en système social, voilà, de séparation. Ça augmente les frictions et les problématiques de garde au tribunal. C'est une conséquence ?
Ah bah oui, c'est une conséquence, forcément. D'accord. Puisque les pères ayant pleinement pris conscience de leur équité par rapport à la mère, ils veulent que dans la décision, ça soit fixé de façon équilibrée et égale. Et donc la mère, parfois, souvent, trop souvent. Moi, quand ils viennent me voir, c'est que vraiment, il y a un problème, forcément. Et la mère, trop souvent, elle veut réduire. Et donc, c'est comme ça que ça entraîne un conflit, évidemment. Évidemment. On a aussi des situations où le conflit part très fort dès la séparation, de fait. Et le temps de la procédure, parce que quelquefois, selon les juridictions, selon ça, alors la personne n'y peut rien, c'est le fonctionnement de la justice, un manque de magistrats, etc. Des fois, il faut attendre quand même presque un an, voire un peu plus. Et du coup, ça les calme. Parce que entre deux, ils vont refaire leur vie chacun et ils vont se rendre compte aussi en bonne intelligence qu'ils vont peut-être pouvoir parvenir à un accord.
Ou ils en parlent un petit peu autour. Ils en parlent un peu autour d'eux et ils se rendent compte que le tribunal est rarement une bonne solution. Que ça respire pas non plus la performance et la rapidité, et que trouver un bon arrangement comme ça, des fois, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Hein, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire et qu'on peut.
Si vous me permettez, j'ajoute un bémol. Oui, vous avez raison. Un arrangement entre eux, à l'amiable, ce qu'on dit dans mon jargon, c'est bien. Mais attention, cet arrangement à l'amiable, tant qu'il n'est pas enregistré par un magistrat, par un tribunal, donc validé par un juge, et qu'il n'y a pas une décision qui fixe noir sur blanc les choses, il peut être remis en cause à n'importe quel moment. Oui. Donc moi, j'encourage toujours mes clients quand ils viennent en disant ben voilà, je vais me débrouiller, on va s'arranger. Vous me conseillez de faire quoi? Je vous conseille de faire une requête conjointe sans avocat, pas besoin d'avocat. Voilà.
S'ils sont mariés, c'est obligatoire. Mais s'ils sont mariés,
on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix. Voilà, c'est encore un problème.
Le choix d'avocat. Mais comme ça, vous faites une requête conjointe, vous faites enregistrer, vous aurez une décision. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que tant que vous êtes d'accord, vous ne pouvez très bien ne pas respecter la décision. Vous ferez ce que vous voudrez. En revanche, le jour où vous serez en désaccord et que ça sera très tendu, vous aurez votre cadre et vous saurez quand et comment prendre l'enfant. Il n'y aura pas de difficulté.
Alors, ce qui est intéressant également, c'est que vous, vous êtes une militante pour la résidence alternée.
Ah ben, je suis convaincue que les enfants ont besoin des deux, et d'ailleurs peu importe l'âge, parce que les deux parents n'apportent pas la même chose, et quand on a la chance d'avoir les deux vivants, effectivement il faut avoir les deux, et non seulement je suis convaincue, mais c'est surtout que maintenant dans le code civil c'est le principe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui
2002, Ségolène Royal. Ouais, 2002, Ségolène Royal, coparentalité.
Voilà. Donc, ça veut dire que ça doit être l'exception, un week-end sur deux pour le père. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a 80% des dossiers qui sont en résidence alternée. Mm-hmm. Le moindre grain de sable peut écarter cette résidence alternée. Et quand je dis le moindre grain de sable, c'est que j'ai déjà vu dans un dossier saisir conjointement pour demander la résidence alternée. Finalement, la relation elle se dégrade pendant la procédure. Le magistrat relève que la relation s'est dégradée et donc, compte tenu de l'absence de communication sereine et apaisée entre les parents, il ne peut plus avoir de résidence alternée. Mais vous vous rendez compte de la calamité, de la catastrophe.
Oui.
Les enfants ont eu l'habitude pendant tout le temps de la séparation de vivre la résidence alternée. Le père, il est super impliqué et d'un seul coup, on lui dit non, mais ça s'est dégradé. Et il ne faut pas oublier non plus.
Et les deux étaient d'accord entre eux et ils sont allés au tribunal et ils ont eu des avocats et ils ont commencé à se battre et à la fin, ça part en désastre. Ça, on en a vu aussi, nous.
Alors que le code, là encore, c'est le code qui s'applique. Le code dit quoi? Le code, il nous dit une chose très simple, au-delà de la résidence qui est le principe, de la résidence alternée qui est le principe. Il nous dit une chose très simple. Il nous dit le juge doit tenir compte de la pratique mise en place par les parents. Si la pratique justifiée depuis la séparation, avant de passer devant le juge, il y a une résidence alternée, on peut l'exclure juste parce que là, ça s'est dégradé, qu'il y a eu des tensions. Vous savez, je vais être peut-être négative et je vais peut-être ne pas être reconnue par mes congénères, mais des fois, le conflit, quand on veut le créer, on peut le créer, pour justement arriver devant un juge et dire, bah, vous voyez, on ne s'entend plus.
Oui. Alors, deux
mais
points.
Les gens sont pas. Les gens, on n'est pas au pays des bisounours. Il y a aussi cette mentalité-là.
Alors, deux points. Le truc, l'enfant vit à cet endroit depuis deux ou trois semaines. Donc, pour ne pas le bouger, etc., on va le laisser là où il est. Ça, on l'entend très souvent. C'est quand même une tarte à la crème aussi, parce qu'il a pu passer quand même plusieurs années auparavant, puis il a changé d'amis, d'activité, de lieu de vie, tout ça, etc. Mais on ne le déplace pas, il suffit d'arriver là-bas. On a quelques papas qui ont essayé d'embarquer le gamin et de dire « Ah ben maintenant il est avec moi, puis à tel endroit, ça s'est moins bien passé. »
Ah ben
Ah oui.
Mais il y a plusieurs cas de figure. Le fait de ne pas vouloir déstabiliser et arracher en fait l'enfant de son environnement qu'il a toujours connu, ça peut s'entendre. Franchement, ça peut s'entendre. Parce que
tout à fait. C'est les activités extrascolaires, les relations, les amis, la belle famille. On ne déplace pas un enfant comme on déplace un sac de sport. Je suis d'accord avec ça.
Et ça, là-dessus, ils ont raison de faire attention à ça. Ceci étant, si ne pas déraciner un enfant, c'est aussi prendre un risque par rapport à l'autre parent qui, pour une raison professionnelle, peut être éloigné, parce que la vie, elle fluctue. C'est pas figé. Donc, si l'enfant, peut-être qu'il a vécu 7 ans, effectivement, au même endroit, et que ce serait douloureux de le sortir de là, si pour des raisons professionnelles, un de ses parents doit partir, on fait comment? Alors, c'est le parent qui va se priver. Tout ça pour rester dans un environnement, alors que finalement, l'enfant, il sera pas plus heureux de pas voir son autre parent.
Oui, moi, j'ai déménagé pour voir la résidence alternée. Ça a été un fiasco parce qu'elle a été sabotée, mais j'ai fait ça. Beaucoup d'entre nous le font, d'ailleurs. Vous disiez qu'en fait, si la mère ne voulait pas la résidence alternée, enfin, si l'un des deux parents ne voulait pas la résidence alternée, il était facile de faire un conflit, l'instrumentaliser, puis en fait, on pouvait exclure l'autre parent.
Oui. On en vient à exclure notre parent. Alors, ça, exclure, ça veut dire réduire ses droits. Ça ne veut pas dire l'exclure totalement non plus. Mais bien sûr que si la mère décide de générer un conflit pour des raisons qui lui sont propres, souvent pas fondées, parce qu'elle ne pense pas à l'intérêt de son enfant. Moi, je parle des pères qui ont un bon profil. Évidemment, je ne vous parle pas des pères...
On
ne
parle pas des salauds, on ne parle pas de tout ça.
Il
y en a qui ont l'étiquette sur le front assez facilement, puis on se rend compte plus tard qu'elle n'était pas méritée, l'étiquette. On la donne un peu rapidement, l'étiquette.
Moi, je vous parle
aussi,
des pères... Mon discours, c'est sur les pères investis, qui ont toujours suivi leurs enfants, etc.
Moi, je suis tolérance zéro. On prend la tronçonneuse. Je suis pour la tolérance zéro. On prend la tronçonneuse, on viole les gens, je pardonne pas, ça c'est clairement. Quand on se fait cracher dessus pour rien, des fois c'est douloureux quand même.
Oui, et c'est en cela que la parole de la mère, elle doit être prise avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions. C'est-à-dire qu'on doit, on devrait pouvoir exiger autant de preuves qu'on exige finalement indirectement, hein, c'est pas officiel, hein, mais indirectement de la part du père, parce que la mère peut facilement créer le conflit. Et comme ça, le père, il est réduit. Alors, il peut. Moi, j'ai vu des situations où la mère dit des choses, évoque des choses très graves à l'égard du père. La juge va dire, bon, ben, par précaution, on va écouter la mère. Je peux comprendre, mais sauf que ça fout en l'air la famille et ça fout en l'air la relation du père avec ses enfants. Mon client se retrouve à aller dans un lieu neutre quelques temps pour faire profil bas et montrer patte blanche pour le coup. Alors, les lieux neutres, faut savoir qu'en fait, c'est souvent dans des cas de violence, des cas de stupéfiants, d'alcoolisation. Enfin, c'est pas un endroit sympa ni pour le père ni pour les enfants.
De ce non, et puis j'en avais parlé à Gérard Poussin, qui est au programme d'études de psychologie, hein, qui était le fondateur des centres d'immatisés. Ça sert pas à ça, un centre d'immatisés. Ça sert pas à mettre quelqu'un en sursis, au cachot, à le punir. Au départ, c'était pour observer, hein, pour médiatiser.
Non, mais c'est toujours ce point de départ dont vous parlez, c'est toujours ça. Sauf que en réalité, alors d'accord, les équipes sont sympas, mais c'est pas un endroit très, très agréable.
Non, c'est pas agréable. Elles sont très souvent très bien formées, d'ailleurs, faut le dire. Hein. Il y a quand même un travail.
Oui. Et puis, ils savent détecter le moindre truc. Ça, c'est vrai, c'est souvent de bonnes équipes. Mais pour celui qui le vit, le parent ou l'enfant, c'est quand même pas forcément facile, même pas facile du tout. Ouais. Et donc, on se retrouve à avoir un lieu neutre comme ça pendant quelques temps. On revient devant le juge, on dit, vous voyez, tout s'est bien passé, rapport de l'association nickel, tout s'est effectivement très très bien déroulé. Et donc on essaie de retrouver après, j'ai déjà vu, retrouver encore une autre excuse pour encore dire, on va refaire, on va reprolonger le lieu neutre. Non, il a déjà montré patte blanche, ça a déjà été difficile, maintenant il faut revenir à une relation normale. Et la relation normale, à la base, c'est la résidence. Et justement, dans ces dossiers où les mères poussent à l'extrême le père, et poussent à l'extrême l'éviction du père, c'est un danger pour elles. Dans le sens où, au final, c'est-à-dire devant la cour d'appel, il y a plusieurs degrés de juridiction, vous savez, on arrive des fois à des transferts, c'est-à-dire les juges se rendent compte qu'en fait la mère a fait de la manipulation, que ça soit des enfants, a prétexté des choses graves, des accusations graves, et là les magistrats se disent quoi ? Se disent, madame, vous avez fait obstruction au droit du père, par conséquent cette obstruction-là, elle démontre que vous n'êtes pas capable d'avoir vous n'avez pas les capacités éducatives et donc on va transférer les enfants chez le père. Alors, au final, elle perd de tout.
Deux choses. Premièrement, le fait d'aller porter plainte au pénal, puis de prendre la plainte et de l'amener au civil, ça fait une exclusion du père sur plusieurs années. Ça, on le voit quand même de manière assez régulière, par précaution, et en plus les enquêtes maintenant, alors, elles prennent 3 ou 4 ans et tout, on rompt les liens et on perd les gosses. Si jamais le père s'accroche et la mère commence à risquer ce que vous venez d'exposer, là, le risque qu'il y a à la cour d'appel de se rendre compte qu'elle a menti, qu'elle a instrumentalisé et tout, et bien là par contre l'enfant, il devient victime de pression et c'est lui qui va se mettre à accuser le père.
Parfois, ça arrive aussi, mais parce qu'il y a eu. Alors, j'aime pas trop utiliser ces mots-là, ils sont utilisés trop facilement, mais l'emprise et l'aliénation parentale, c'est des sujets importants, sérieux, il faut que ça soit caractérisé. Il y a des cas avérés d'aliénation et d'emprise.
Et là, on a un problème, la magistrature refuse d'utiliser ce terme-là, et on a l'impression que ce discours que je suis en train de vous dire est devenu quasiment politique. On a l'impression que lorsqu'on commence à parler d'emprise sur les enfants, eh ben c'est quelque chose pour protéger les violeurs et les incestueux. C'est quelque chose qui est une petite musique là, qui entend qu'on est arrivé. On a l'impression qu'il y a une politisation de cette chose-là.
Alors, j'irai pas jusqu'à dire que la magistrature ne veut pas le prendre en
compte. Ah si, c'est publié. J'étais avec Barbara Réjean et d'autres encore il y a pas longtemps là au téléphone. Si, on peut plus utiliser ce mot aliénation. L'Europe veut pas, la magistrature veut pas. C'est balayé, interdit.
Ce que je sais, en tout cas, c'est que ce mot a été utilisé dans tous les sens. Ouais. Et c'est toujours cette histoire de preuve en matière de justice. Je suis désolé, mais c'est quand même la preuve qui l'emporte.
Oui.
et du coup, l'utiliser trop facilement pour finalement derrière ne pas avoir de preuve, les juges peuvent pas prendre le risque de marquer aliénation alors qu'en réalité le dossier est peu étoffé. Voyez, donc ça c'est important.
Ouais, mais concrètement, regardez dans les cas comme ça de désaccord et autres, le père n'a jamais la garde. Et puis s'il s'accroche trop, c'est l'enfant qui souffre.
Si le père parfois obtient justement le transfert de résidence. Quand on démontre
7 à 8%. D'après les statistiques, qui sont très difficiles à avoir aussi. Et ça comprend, ça contient les adolescents qui imposent leur point de vue et les mères dysfonctionnantes. C'est-à-dire que, pas souvent.
Je ne vais pas vous dire que c'est la règle, mais, malheureusement. Mais en tout cas, si on... C'est une bataille. De toute façon, c'est un procès, donc c'est une bataille. Si on bataille, on peut obtenir des transferts, mais bien sûr que si. Ça aussi, c'est encore... Ça part du code civil. Le code civil le dit bien que le parent ne doit pas faire obstruction au droit de l'autre. Donc quand on découle de ça plus la responsabilité parentale, on arrive à obtenir des bonnes décisions. Mais c'est une, ben voilà, mais c'est une vraie bataille. D'accord. Et pour revenir sur ce que vous disiez il y a un instant, c'est normal que la femme soit protégée, c'est entièrement normal. Mais le problème, c'est que, vous voyez, il peut y avoir des ordonnances de protection qui conduisent à une interdiction de contact. Du coup, il va y avoir un éloignement du père avec l'enfant et forcément la mère, parce qu'il n'a pas le droit de rentrer en contact. Et après, les mois vont s'écouler. Et une fois qu'il va dire, moi, maintenant, je veux quand même retrouver mon rôle de père, parce que l'époux, le conjoint, c'est une chose, mais ce rôle de père, il est là et il doit être pris en compte. On va y aller progressivement, alors que c'est le père et qu'il n'y a jamais rien eu avec l'enfant. Et ça, à mon sens, c'est néfaste. Cet excès de protection qui est justifié dans trois fois sur quatre, il y a aussi une fois sur quatre où il n'est pas justifié que c'est un prétexte. Et que c'est un argutie. Et c'est en ça que c'est dangereux.
Alors, effectivement, c'est une question que j'allais vous poser après et vous l'avez très bien amenée. Est-ce que, quelque part, on n'est pas en train de se rendre compte qu'il y a eu quantité de choses absolument inadmissibles et banalisées durant trop longtemps ? Et est-ce que, quelque part, les pères d'aujourd'hui ne sont pas en train d'être les victimes collatérales d'une opération de nettoyage ?
Opération nettoyage.
Non, mais je veux dire par là de changement de comportement et autres, vous voyez bien. Mais ça, c'est, la société évolue. Il y a une époque où on éduquait des enfants à coups de ceinture et de martinet, vous voyez. Peut-être qu'il se passait des choses dans les familles et autres. Moi, j'ai des témoignages, des sexologues qui me disent, j'en reçois trois par semaine, qui viennent me dire qu'on leur a dit des trucs quand elles étaient gamines et autres, qu'on leur a fait des choses. Je suis obligé de me dire que peut-être qu'à une époque, on parlait pas autant. Alors, soit on a changé de comportement depuis 20 ou 25 ans. On est tous devenus complètement hallucinés. Soit avant, on n'en parlait pas. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Hein.
Bon. Le problème, c'est que, je suis d'accord avec vous là-dessus. Le problème, c'est le curseur. On le place où, le curseur ? On a été dans l'excès, je pense, il y a 40-50 ans, dans un certain sens. Aujourd'hui, on est dans un autre excès. Il y a eu Françoise Dolto entre deux aussi. C'est quand même une référence aussi en matière éducative. Je suis pas sûr, je sais pas. Moi, je suis pas psy, mais ça a des répercussions aussi sur les mentalités. Et puis aujourd'hui, enfin, une chose est sûre, hein, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'enfant au centre des choses. Avant, les enfants, c'était pas au centre. C'était le mot est moche, mais c'est le seul qui me vient à l'idée. C'était l'accessoire aux parents. Aujourd'hui, on met l'enfant au centre de notre vie. On a raison, je trouve. Et moi, la première en tant que maman. Mais voyez. Et ça aussi, ça engendre des excès. Enfin, tout engendre des excès. Moi, je ne sais pas où placer le curseur.
Et là en 30 secondes, est-ce qu'il n'y a pas aussi une attaque de la société sur le lien parent-enfant, sur l'autorité parentale ? Est-ce que l'État ne s'immisce pas de plus en plus dans la sphère privée par rapport à ça ?
Je vais vous donner un exemple. Assez révélateur, justement, et sur cette altération par la justice de l'autorité parentale. On fait de plus en plus écouter les enfants en matière de justice pour savoir, on va leur demander où est-ce qu'ils veulent vivre. On va leur demander de choisir. Comment on peut demander à un enfant de choisir entre son père et sa mère? Déjà, c'est quand même assez compliqué. Il faut que ça soit réservé à des cas particuliers.
Mais normalement, c'est interdit.
Oui, mais du coup, on alterne l'autorité parentale. C'est aux parents, c'est eux qui exercent l'autorité. C'est à eux de décider, c'est à eux de se mettre d'accord et de décider. Absolument. C'est pas à dire l'enfant va t'expliquer devant un juge.
Non, parce que l'enfant devient décisionnaire, l'enfant est manipulable, et est victime de pression.
Bien sûr.
Et on avait fait ça pour le protéger, justement, de tout ça. Ok. Maître Mini, on vous trouve comment ?
On me trouve sur Internet. Si on tape Magali Mini, on me trouve très facilement. Bien. Et il y aura toutes mes coordonnées. Je suis donc à Reims, au 30 boulevard de la Paix.
Ok.
Internet.
Vous à tout le monde, numéro de téléphone. À la semaine prochaine, ceux sur YouTube. On se parle encore un petit peu. Au revoir, à bientôt.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.